qui de Kamala Harris ou Donald Trump entrera à la Maison-Blanche? Et on en parle avec notre chroniqueur économie, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal, Michel Poitevin. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Alors, avec vous, évidemment, on aborde les enjeux économiques de ces élections américaines.
Oui, il y en a plusieurs. Un des principaux, ou un enjeu principal, c'est le commerce international. M. Trump a promis des tarifs importants sur tous les produits chinois qui rentrent aux États-Unis. Là, quand on parle d'important, c'est 60 % et plus de tarifs. Alors, ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à presque doubler le prix du produit et des tarifs de 10 à 20 % sur toutes les autres importations. Aux États-Unis, on importe, pour vous donner une idée, là, 97 % des vêtements vendus aux États-Unis sont importés, 98 % des chaussures, puis 90 % des produits électroniques grand public.
Made in China, mur à mur ou presque.
Ben oui, c'est ça. C'est presque made in China, parce que ces importations-là, c'est pas seulement de la Chine, mais évidemment, comme vous le dites, la Chine a entre 80-90 % des importations aux États-Unis, ça viennent de Chine. Alors, avec des tarifs de 60 % il va y avoir deux choses. Un, ça va créer de l'inflation là, si on maintient ces tarifs-là, parce que le prix d'un paquet de produits va augmenter de façon significative. Et puis aussi, c'est certainement que la Chine ne se laissera pas faire et puis qu'il peut y avoir des guerres commerciales. Puis ça aussi, c'est dommageable pour l'économie américaine et mondiale. Avec le Canada, qu'est-ce qui va arriver chez nous? On a un accord de libre-échange, mais M. Trump, il n'a pas l'air de s'enfarger trop dans les fleurs du tapis.
C'est pas sûr
que ça va l'arrêter. Là, on verra. Ça se peut qu'il nous impose des tarifs et puis qu'on essaye de se plaindre à l'Organisation mondiale du commerce ou invoquer le libre-échange, mais des fois, ça peut prendre du temps avant que ça soit réglé. On espère que M. Trump n'ira pas au bout de ses paroles, mais s'il est élu, mais c'est à suivre. Évidemment, avec l'inflation, ça veut dire que les taux d'intérêt aux États-Unis ne vont pas baisser aussi vite. Là. On connaît l'arbitrage entre taux d'intérêt et inflation, on en a parlé souvent. Et donc, ça va ralentir la croissance économique aux États-Unis. Puis nous, comme les États-Unis, c'est un gros partenaire commercial, bien, ça va affecter l'économie de notre côté aussi. Là. Du côté de Mme Harris, elle n'a pas parlé autant de tarifs. Il est possible qu'il y ait certaines hausses de tarifs du côté de Mme Harris, mais elle serait plus motivée par la géopolitique, donc plus ciblée, peut-être des produits exportés vers ou qui viennent de Chine, là, mais dans certaines industries très, très ciblées. Alors, ça va être certainement moins dommageable de ce côté-là si Mme Harris est élue. Au niveau de la taxation puis des déficits, M. Trump veut réduire l'impôt des entreprises. Il l'avait fait en 2016 quand il avait été élu. Donc, à court terme, ça va augmenter l'évaluation des entreprises. Donc, ça devrait stimuler un petit peu la bourse et ça va avoir un impact certain sur le déficit. En 2016, M. Trump avait également octroyé des baisses d'impôts importantes, notamment à ceux qui avaient des revenus inférieurs à 400 000 $ Et ces baisses d'impôts-là étaient limitées dans le temps. Elles doivent venir à échéance, si je ne me trompe pas, en 2025. Donc, si Trump est réélu, il y a des bonnes chances qu'il reconduise ces baisses d'impôts-là. On estime là, l'impact des baisses d'impôts totales de M. Trump à environ 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Et ce qui est énorme, c'est qu'il y aura un impact significatif sur le déficit du gouvernement américain. Et donc, ça veut dire que ça augmente les taux d'intérêt. Si le gouvernement emprunte beaucoup, ça a une pression à la hausse sur les taux d'intérêt. Puis encore une fois, la croissance est affectée.
Et en ce qui concerne Kamala Harris?
Bon, Mme Harris, ses promesses seraient moins coûteuses, quoiqu'elle est aussi relativement généreuse. Sans entrer dans le détail, elle a fait des promesses pour l'aide à l'accession à la première propriété, donc aider à financer la mise de fonds pour un achat d'un premier logement. Il y a également des aides pour la mise en chantier de nouveaux logements, des nouveaux crédits d'impôt pour les enfants, de l'aide aussi pour les primes d'assurance santé pour les ménages. Là, la santé, c'est toujours un enjeu aux États-Unis, ça coûte extrêmement cher. Les ménages doivent s'assurer, donc les ménages qui ont des revenus moins élevés, elle veut les aider à payer leurs primes d'assurance santé. On évalue ses promesses à 1 700 milliards sur 10 ans versus le 4 000 milliards de Trump. Mais Mme Harris, une partie de ces promesses-là serait financée par des augmentations d'impôts. Le taux d'imposition des entreprises passerait de 21 à 28 %, donc les entreprises paieraient plus d'impôts. Elle veut augmenter le taux marginal de taxation pour tous les revenus en haut de 400 000. Donc, elle vise les gens plus fortunés, puis augmenter le taux d'imposition des gains capitaux pour les revenus supérieurs à 1 million. Elle nous promet que, elle promet que tout contribuable qui a un revenu inférieur à 400 000 ne serait pas touché par des hausses d'impôts. Donc, on a l'impression que le déficit, là, au bout de 10 ans, sera un peu moins élevé sous Mme Harris que sous M. Trump.
D'autres enjeux en terminant, Michel?
Oui, en environnement, M. Trump, ce ne sera pas le président le plus vert. Donc, il favoriserait l'exportation de gaz naturel liquéfié. On en produit aux États-Unis, mais on a besoin d'un permis pour exporter. On a l'impression que sous M. Trump, les permis seraient beaucoup plus faciles à avoir. Probablement qu'il affaiblirait la réglementation environnementale. M. Biden avait mis en place une réglementation assez sévère pour éliminer les émissions de CO2 des centrales électriques au charbon dans l'optique de réduire la durée de vie puis de passer à d'autres modes d'énergie. Probablement que M. Trump éliminerait cette réglementation. Il y aurait probablement un impact sur les subventions à l'achat de véhicules électriques, là, quoique avec M. Musk qui l'a aidé dans sa campagne, est-ce qu'il va revenir là-dessus? À suivre. Avec Mme Harris, je pense qu'on poursuivrait dans la lignée du président Biden puis du Inflation Reduction Act, là, où on favorise beaucoup les subventions aux énergies vertes. Puis évidemment, on pourrait parler d'immigration. Juge à la Cour suprême, bon, c'est pas un enjeu économique, mais ça peut être important. Il y a deux juges vieillissants, là, Alito et Thomas, qui sont à droite. Peut-être que si Trump était élu, il en profiterait pour démissionner pour que ça soit plus être Trump qui nomme des nouveaux juges, qui les rend leur remplaçant à la Cour suprême. Donc, d'énormément d'enjeux, c'est à suivre. Le marché électoral américain dont on parlait la semaine dernière, ce matin, est tout près de 63 sous pour l'action pour Trump, ce que ça veut dire que les acteurs sur le marché évaluent sa probabilité d'élection à 63 %.
Il était à 56 la semaine passée, vous dites? En fin de semaine, c'était 56?
Oui, en fin de semaine, c'était à 56. Je pense qu'on s'est parlé la semaine dernière, il était à 65. Ça avait tourné du côté de Mme Harris à 56.
Ça fluctue.
Je pense le 2 novembre, puis là, c'est remonté à 63. Ça fluctue, effectivement. Puis je pense qu'on ne saura pas ce soir qui va être élu. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de recontages.
Oui, c'est ce qu'on entend. Est-ce que vous allez suivre la soirée électorale?
Oui, certainement. Espérons avec pas trop de frustration.
Alors, on va pouvoir s'en reparler la semaine prochaine.
Oui.
Merci, Michel. Bon mardi 5 novembre. À bientôt.
Vous également. Merci. Au revoir.